Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La Commission européenne revoit fortement à la baisse ses prévisions de la croissance économique tchèque. Décès d'Ivan Martin Jiroš, grande figure de l'underground tchécoslovaque. En tennis, Tomáš Berdych s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Paris et pour les Masters. La Commission européenne a nettement revu à la baisse ses prévisions de la croissance de l'économie tchèque. Selon Bruxelles, le taux de croissance du PIB devrait s'élever à 1,8% cette année, soit 0,2 points de moins que ce qui avait été prévu au printemps dernier. Mais surtout, la Commission ne prévoit que 0,7% de croissance en 2012 contre 2,9% encore au printemps dernier. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi dans les deux cas, tant pour 2011 que pour 2012. Il s'agit de prévisions plus pessimistes que les chiffres sur lesquels se base actuellement le ministère tchèque des Finances. 3 hommes ont été tués par balle ce jeudi dans les locaux de l'usine de construction aéronautique Aircraft Industries à Kunovice, près d'Uherské Hradiště, en Moravie du Sud. Une femme a été légèrement blessée. Selon l'agence ČTK, il s'agit de la directrice générale de la société, Ilona Plushkova. La police a précisé que le drame s'était produit à midi dans les bureaux de la direction et que le tireur présumé s'était suicidé. L'enquête policière est en cours. Ivan Martin Jiroš, poète et grande figure de l'underground en Tchécoslovaquie communiste, est décédé ce jeudi à Prague à l'âge de 67 ans. Ivan Martin Jiroš, connu sous le surnom de Magor, cinglé, a notamment été depuis 1967 manager artistique du groupe Plastic People of the Universe. Il a passé au total 8 ans dans les prisons communistes. Ses poèmes lui ont valu le prix littéraire Jaroslav Seifert et le prix Tom Stoppard. Le petit garçon dont l'âge est estimé à 1 an et demi par les médecins et qui a été déposé dans une baby box de l'Olomouc en Moravie lundi soir a été placé à titre provisoire dans une famille d'accueil mercredi. La décision a été prise par le tribunal de l'Olomouc. Il s'agit du 61e enfant déposé dans une des 44 boîtes à bébés progressivement installées partout dans le pays depuis 2005. Toutefois, jamais encore en l'espace de 6 ans, un enfant aussi âgé n'avait été déposé. En bonne santé, le petit garçon a été laissé sans aucun papier ni lettre d'explication. La police qui mène une enquête a indiqué que le dépôt de l'enfant, malgré son âge, n'était pas illégal. Ouverture ce jeudi à Prague du festival Melting Pot 2011 consacré à la danse africaine traditionnelle et moderne. La 5e édition du festival organisée ce jeudi et vendredi au Duncan Centre dans le 4e arrondissement de Prague met à l'honneur les chorégraphes et danseurs sénégalais Siré Bey, Germaine Akoni et Kaolak, ainsi que le danseur congolais installé en République tchèque Maurice Yeka. Et les invités du festival animeront les 12 et 13 novembre au Duncan Centre un atelier de danse. En tennis, vainqueur du Serbe Janko Tipsarevic en 2-7, 7-5, 6-4, jeudi midi à Bercy, Tomáš Berdych s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Paris. Cette victoire garantit surtout au joueur tchèque, numéro 7 mondial actuellement, de pouvoir participer au Masters, ce tournoi qui réunira à Londres à partir du 20 novembre les 8 meilleurs joueurs de la saison. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Martins, le temps en République tchèque sera nuageux avec éclaircies, notamment dans le nord et dans l'est du pays. Les températures oscilleront entre 4 et 8 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Guillaume Narguet. Moi-même, je vous retrouve dans quelques minutes.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure une nouvelle affaire présumée de corruption pour avoir expliqué de façon peu convaincante l'origine d'une importante somme d'argent trouvée sur le compte de sa mère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a été contraint de démissionner. Il s'agit du 4e membre du gouvernement actuel soupçonné de corruption. Plus de précisions dans quelques instants. De corruption, ou plus précisément de lutte contre la corruption et de transparence, il a également été question lors de la première remise du prix du Lys Blanc, un prix remis par l'ancien président Václav Havel. Et puis la seconde partie du programme sera consacrée à la rubrique du jour, une rubrique dans laquelle sera proposée la seconde partie de l'entretien avec l'historienne de l'art franco-tchèque Jana Klavry, lauréate cette année du prix Gratias Agit décerné par le ministère tchèque des Affaires étrangères. Très bonne écoute. Un de plus, donc, soupçonné de corruption, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Martin Kocorek, a démissionné de ses fonctions mercredi. Il est ainsi devenu le 6e ministre et le 3e membre du Parti civique démocrate, ODS, principale formation de la coalition, à quitter prématurément un gouvernement qui a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Cette fois, c'est une somme de 16 millions de couronnes, soit environ 640 000 euros, trouvée sur le compte bancaire de sa mère qui a coûté sa place à Martin Kocorek. Le scandale avait éclaté vendredi dernier suite à la publication dans la presse de documents démontrant que la mère du ministre avait signé en 2008 un contrat avec une société d'investissement, signature à la suite de laquelle était apparue une semaine plus tard des obligations d'une valeur de 16 millions de couronnes sur son compte. Trois mois plus tard, l'ordre était donné de vendre ses obligations. Selon les documents publiés, l'argent qui aurait permis l'achat des obligations provenait d'une société siégeant au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Forcément, Martin Kocorek a été aussitôt soupçonné de tremper dans une affaire de corruption. Mercredi après-midi, le ministre a donné sa version des faits lors d'une conférence de presse spéciale, au cours de laquelle il est apparu très nerveux et très hésitant.
Il s'agit en partie d'argent qui appartenait à ma famille, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent de ma mère, de l'argent en rapport avec mon passé, concrètement provenant de mon accident, et il y avait aussi de l'argent qui était le fruit de mes économies et de mes affaires.
Après avoir démenti l'information selon laquelle cette somme d'argent aurait un rapport avec ses fonctions au sein du conseil de surveillance de CEZ, la Société nationale de production et de distribution d'électricité, Martin Kocorek a précisé avoir réalisé ces transactions afin, selon ses propres termes, de détourner la somme de 16 millions de son épouse dont il a divorcé en 2008. Lors de cette même conférence de presse, Martin Kocorek affirmait qu'il n'entendait pas abandonner son fauteuil de ministre, mais dans la soirée, le Premier ministre Petr Nečas, après avoir qualifié les démarches de Martin Kocorek de malheureuses, mais précisé qu'il ne voyait aucune suspicion de corruption dans cette affaire, annonçait avoir accepté sa démission. Ministre de la Justice et vice-président du Parti civique démocrate, Jerzy Pospíšil justifie la position du chef du gouvernement.
Il y aurait eu un problème si l'affaire avait duré plusieurs semaines et si Martin Kocorek n'avait pas donné d'explication. Or, le Premier ministre lui a laissé quelques jours pour rassembler ses arguments. Je pense que c'est une démarche adéquate. Aujourd'hui, il est apparu que son argumentation était difficilement utilisable. Ses explications selon lesquelles il s'agit de biens appartenant à sa famille qu'il voulait détourner de sa femme ne sont effectivement pas très heureuses et c'est pourquoi il a démissionné. Mais l'essentiel est qu'une explication ait été donnée, qu'une décision ait été prise et que l'affaire n'ait pas traîné.
Dans le camp de l'opposition social-démocrate, dont certains membres sont eux aussi régulièrement mis en cause dans des affaires de corruption, on s'est bien entendu empressé de tirer sur l'ambulance, à l'image du sénateur Jiří Dienstbier, vice-président du Parti social-démocrate.
Je pense que cette démission arrive quand il n'était plus possible de faire autrement. Martin Kocorek a encore essayé de sauver sa peau mercredi en fournissant de nouvelles explications sur l'origine de son argent, mais ces explications ont été encore plus catastrophiques que les doutes qui avaient été émis préalablement. De l'argent en provenance du Nouveau-Mexique et d'une société opaque a été évoqué. On pouvait donc légitimement se demander s'il ne s'agissait pas de blanchiment d'argent, mais l'argument de Martin Kocorek est qu'il a voulu tromper sa femme. Quelle que soit la vérité, le fait est qu'il est impensable qu'une telle personne puisse continuer à exercer des fonctions de ministre.
Martin Kocorek abandonnera officiellement ses fonctions de ministre lundi prochain. Restera le fait qu'il n'est pas le premier contraint de prendre la porte de sortie au sein d'un gouvernement ayant fait de la lutte contre la corruption une des priorités de son programme. Un constat qui ne trouble cependant pas Jiří Pospíšil.
La réaction rapide de Martin Kocorek et son départ quelques jours seulement après que l'affaire soit apparue dans les journaux est la preuve que ce gouvernement lutte bien contre la corruption. Lorsqu'un de ses membres ne fait ne serait-ce que l'objet du soupçon, il quitte le gouvernement. C'est un signe positif, la preuve que la volonté de lutter contre la corruption est bien réelle, qu'elle repose sur des faits concrets et pas seulement des mots en l'air.
Cette démission du ministre du Commerce et de l'Industrie pourrait désormais déclencher un vaste jeu de chaises musicales au sein de la coalition tripartite. Parmi les candidats potentiels pourrait notamment figurer Pavel Drobil, l'ancien ministre de l'Environnement, lui aussi prié de démissionner en décembre dernier pour les mêmes raisons aujourd'hui que Martin Kocorek. Tsena Bilé-Lilié, le prix du lys blanc en français, c'est le nom d'un nouveau prix décerné pour la première fois jeudi pour récompenser les efforts de promotion de la transparence dans l'administration. Premier lauréat, l'ancien député Oldřich Kužílek et l'adjointe au maire de Černošice, Daniela Gotelova, tous les deux félicités en personne par l'ancien président Václav Havel et Alexis Rosenzweig qui assistaient à la remise de ces prix.
Applaudissements pour les deux lauréats et remise d'une statuette en forme de lys, faite de verre et de cristal, le cristal évidemment symbole de la transparence. Oldřich Kužílek, qui dirige entre autres l'organisation Société Ouverte, lutte depuis longtemps contre la corruption et pour les droits du citoyen face à l'administration. Il remporte ce nouveau prix juste devant la finaliste Daniela Gotelova, engagée, elle, depuis longtemps contre les pratiques plus qu'opaques des élus de Černošice près de Prague, élue elle-même l'année dernière adjointe au maire de cette petite commune après un long combat. En remettant leur prix au vainqueur et à la finaliste, Václav Havel a voulu insister sur le choix des mots. Il s'est dit contre l'emploi, quand on parle de corruption, de mots étrangers. Concept difficilement transposable en français, le mot étranger en tchèque est en général le mot aux racines latines ou grecques qui ne fait pas partie de la famille sémantique slave. Pour l'ancien président, il est par exemple important, pour bien se rendre compte du phénomène et de son caractère national, de ne pas parler de korupce, mot étranger, mais de uplatkarstvi, l'équivalent tchèque pour désigner la corruption. Mais la corruption, un fléau contre lequel la République tchèque semble avoir du mal à lutter, jusqu'au sommet de l'État, avec notamment des ministres, on vient de le voir avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, et d'anciens premiers ministres, fréquemment, incapables de prouver que leurs millions ont été amassés de manière transparente. La corruption, un thème devenu le thème de prédilection de certaines grandes fortunes du pays. Le prix du lys blanc décerné ce jeudi est celui de la fondation du multimillionnaire baron du charbon Zdeněk Bakala, numéro 828 au classement Forbes, qui a également investi dans la presse et dans la future bibliothèque de Václav Havel. Un autre acteur économique national de poids affiche depuis peu une certaine détermination à lutter contre la corruption. Il n'a pas de mascotte à réputation internationale, mais Andrej Babiš, numéro 937 du classement Forbes, met aussi les moyens. Il vient de créer un nouveau mouvement appelé Anno 2011, soit en français le mouvement des citoyens mécontents. Contrairement à Zdeněk Bakala, Andrej Babiš a déjà clairement révélé ses ambitions politiques et veut faire son entrée au Parlement en 2014.
Voilà, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Et dans la rubrique du jour, nous vous proposons la deuxième partie de l'entretien avec l'historienne de l'art franco-tchèque, Jana Klavry. Lauréate cette année du prix Gratias Agit, décerné par le ministère tchèque des Affaires étrangères, Jana Klavry partage sa vie entre la Dordogne et Paris, où elle a émigré en 1968. Curatrice au centre Pompidou, Jana Klavry y présentait des artistes tchèques interdits sous le régime communiste, certains étant venus pour des séjours plus ou moins longs en France. Aujourd'hui, Jana Klavry nous parlera d'une de ces personnalités qu'elle côtoyait dans les années 1980-90 à Paris, du collagiste et poète Jiří Kolář. Tout d'abord, Jana Klavry caractérise, au micro de Magdalena Rozinková, la communauté tchèque qui s'était formée à Paris suite à l'écrasement du printemps de Prague.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Il y avait une assez petite communauté, enfin il y avait une communauté tchèque à Paris, mais c'était de Sokol, c'était de, enfin, différentes branches de métiers. Donc, moi, j'étais plutôt parmi les artistes, il n'y en avait pas beaucoup. Je dois dire qu'il n'y avait pas énormément d'artistes tchèques à Paris à cette époque.
Vous avez, pendant la période communiste, accueilli certains artistes tchèques très connus en France lors de leur séjour artistique, disons, à Paris. C'était par exemple Andrea Nachimotova, c'était aussi Jiří Kolář et son épouse Biela. Et eux, ils sont restés longtemps à Paris.
Andrea Nachimotova n'est pas restée longtemps. Elle avait des séjours de 2 ou 3 mois. Et il y avait une possibilité d'atelier. Son séjour se terminait par une exposition à la Galerie de France. En ce qui concerne Jiří Kolář et Biela, eux, ils sont restés. Enfin, Jiří Kolář est resté pour toujours quasiment en France. Biela, elle est rentrée au bout d'un an parce que son visa a expiré. Elle ne voulait pas abandonner complètement la possibilité de revenir en Tchécoslovaquie. Elle est restée en Tchécoslovaquie pendant 4 ans. Jiří Kolář, qui ne parlait pas français, est resté seul à Paris.
Comment ça se passait quand il ne parlait pas français?
Non, il ne parlait pas français. Il apprenait petit à petit, évidemment, de mots tout à fait courants pour acheter du pain, pour acheter quelque chose à manger, pour des choses courantes. Mais il y avait toujours quelqu'un avec lui qui l'aidait. Il y a une histoire assez drôle parce qu'il a obtenu la nationalité française. Et il fallait aller à la préfecture pour ça, au bureau, je ne sais plus, c'était 5e ou 7e bureau, un bureau très fameux. Et j'y suis allée avec lui justement pour... 13 ans de français. Et la dame qui était assise derrière, elle m'a demandé si je suis sa femme. J'ai dit que non. Et donc, elle m'a renvoyée. Et Jiří Kolář est resté seul. J'ai essayé d'écouter derrière la porte. Mais quand il est sorti, il m'a dit, je ne sais absolument rien de ce qu'elle m'a dit. Et surtout, je ne sais pas, elle m'a donné un rendez-vous, mais je ne sais pas quand. Alors, il fallait redemander. Bon, mais il y avait de petites histoires comme ça.
Et Ricolas, était-il heureux à Paris? Malgré ses difficultés de
oui.
Langue, matérielle, tout ça.
Il était très heureux à Paris. Et quand il est rentré, parce qu'il était très malade, il était obligé à la fin de sa vie de rentrer à Prague. Il rêvait toujours revenir à Paris. Je le voyais à Prague après, parce que quand je venais, j'allais le voir. Il rêvait toujours de Paris.
Et à cette époque-là, vous avez accueilli à Paris d'autres artistes tchèques pour des séjours plus ou moins longs?
Pour des séjours, il y avait aussi Kolibal qui a obtenu la bourse de la Fondation Calder. C'est une bourse pour les sculpteurs. Et c'est une bourse très prestigieuse. Il a été choisi par Dominique Bozzo. Il a passé 6 mois à l'atelier Calder qui se trouve à Saché en Touraine. Je pense que c'est un séjour qui a complètement changé sa vision de choses, sa création.
Comment a changé votre vie après 1989, après la chute du mur de Berlin?
Oh, j'avais énormément de travail parce que j'avais le travail au Centre Pompidou. Plus, j'essayais d'organiser des expositions tchèques à Paris et en même temps des expositions françaises à Prague. Et à Prague, j'ai organisé une exposition de Christian Boltanski. J'ai organisé une exposition de Henri Laurence, de Eric Dittmann, une grande exposition de la collection Kahnweiler, et aussi on préparait une exposition de Cramer au musée Picasso, et finalement celle-ci ne s'est pas réalisée parce que les œuvres n'ont pas été prêtées au dernier moment.
C'était pendant la saison tchèque en France, en 2002, et c'était expliqué par la crainte des autorités tchèques d'une éventuelle saisie de ces œuvres d'art dans le cadre d'une affaire de restitution.
Oui, seulement en France existe une loi, parce qu'il y avait la même situation avec les œuvres de Matisse, où la famille a voulu restituer les œuvres à l'étranger. Donc ils ont fait une loi qui interdisait de restituer les œuvres empruntées à l'étranger sur le sol français. Donc,
il n'y avait aucun danger.
Pas de danger, comme quoi ça peut être saisi.
Donc c'était... Quelle était la motivation, d'après vous, de l'ancien directeur de la Galerie Nationale, Mélanie Knizia?
Enfin, je pense qu'il n'aimait pas prêter les œuvres en général. Là, peut-être, il y avait des craintes, ça c'est possible. Mais, bon, je pense que c'était très dommage parce qu'il y a un catalogue qui est sorti, qui a presque 500 pages et qui est complètement exhaustif sur la vie et l'œuvre de Vincent Cramer.
Qui était un grand collectionneur d'art français, tchèque, d'art cubiste.
Oui.
Et il n'y a pas d'espoir que cette exposition puisse encore être organisée un jour?
Ça, je ne sais pas, mais moi, je m'en occuperai plus parce que j'ai essayé cette exposition organisée pendant 15 ans, à peu près. Et bon, ça s'est soldé par un échec.
Vous habitez surtout en Dordogne? En ce moment, dans le sud-ouest de la France, où exactement, si on peut savoir?
C'est entre Saint-Émilion et Bergerac, des villes assez connues. C'est sur la Dordogne directement, la rivière.
Et vous essayez de promouvoir la culture tchèque aussi dans cette région, de quelle manière?
On a essayé de créer des petits festivals du cinéma. J'ai essayé d'inviter des artistes tchèques dans des ateliers qui existent là-bas, où on peut travailler pendant un mois, deux mois, enfin, de faire des petites expositions. Mais malheureusement, cette région est beaucoup plus axée sur l'Espagne et il est très difficile de persuader les gens, par exemple à Bordeaux, qu'il faudrait quand même un peu élargir leurs intérêts et exposer aussi d'autres pays.
Voilà, c'est donc avec l'historienne de l'art franco-tchèque, Jana Klavry, qui répondait aux questions de Magdalena Orzinkova, que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de Radio Prague. Ahoy.